quatre murs sur un coton et que tournent les planètes, un sourire pour drapeau à chaque fenêtre. Puisqu'il faut partir un jour et ne plus dormir ensemble, cueillons à l'arbre du jour.
Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande sur Radio Plus, la radio de votre région. Et vous venez d'entendre Marie Scolache vous interpréter un texte d'André Devac, un poète de la région dunkerquoise. Marie Scolache, aussi nommée Maric.
Plus connue sous le nom qui vient Maric. Donc de décéder le 4 avril. Donc c'était un petit hommage, donc bien sûr, cette grande artiste, on en reviendra tout de suite après. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver en direct, chères auditrices, chers auditeurs. Et je tiens tout particulièrement à dire un grand merci aux trois piliers de cette radio, votre radio préférée, Radio Plus, à Christophe, à Julien et à Jean-Philippe. Bravo à eux pour ce travail dans des conditions vraiment pas toujours faciles, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors merci encore de nous faire bénéficier de cette belle radio de Radio Plus. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous reprenons en direct donc notre émission L'Heure Flamande et nous avons choisi comme thème eh bien, un petit peu une rétrospective des différents mouvements flamands en Flandre française depuis la libération, depuis 1945. Alors pourquoi cette idée nous est venue? Eh bien, tout simplement, eh bien, justement, le décès récent de Marie Scolache. Alors ce nom évidemment ne vous dit peut-être pas grand chose. Elle est beaucoup plus connue sous son nom d'artiste de Maric. Elle est dunkerquoise, issue d'une famille de médecins. Elle était francophone, mais très vite elle a été séduite par la culture flamande. Et même si elle ne parlait pas cette langue, eh bien, elle disait, eh bien, en la chantant, on apprendra très vite. Et c'est ainsi qu'ils ont créé un duo avec André Rouzet, qui s'est appelé donc Maric en Bart. Alors pour son inspiration, eh bien, elle a cherché, eh bien, bien sûr, dans les archives et en particulier, il y avait ce gros album du chant traditionnel de Flandre recueilli un siècle plus tôt par Edmond de Coussemaker, qui avait fondé d'ailleurs le Comité flamand de France. C'est un ouvrage qui va d'ailleurs servir de base de travail à bien des groupes musicaux que nous allons vous faire découvrir tout au long de cette émission.
Nimmer han es flamsch die Laten, Land verschüssen, en verdü. Flamsche Klanken, flamsche Sprache, sind die Penusarta rü. Nimmer han es flamsch die Laten, Land verschüssen, en verdü. Flamsche Klanken, flamsche Sprache, sind die Pläne satt darüber. O Frau Wille, 100 Jahren klungen es flammsch hier overarun. Mutter es klappet, bitte wiehe, an der Buhren ob nördlich rum. Nirme hohnes Flammsch nie lauten, Land verschüssen, hän verdü. Flammsche Klanken, Flammsche Sprache, sind die Penne satt darü. Male Jus, hei Kerkerschole, lehre nü, dann frasch mal sinn. Möhme nü, he flamsch me klappen, moi drönü Wasser sind. Nehme hannes flamsch nie laden, ma me klappet vor den E. Sonder flamsch, he flamsch löte, sonder flamsch, he flamm i me. Flammsch nie laden, Land verschüssen, hän verdü. Flammsche Klanken, Flammsche Sprache, sind die Penne satt darü.
Vous venez d'entendre le duo Joël et Clerc. Vous interprétez une chanson traditionnelle de Flandre maritime, la région dunkerquoise, pour clamer leur amour pour la langue flamande, pour la protéger et la maintenir.
Voilà, et donc de la sauver. Et c'est ainsi que, bon, quand on parle de mouvement flamand, évidemment, on pourrait parler plutôt de plusieurs mouvements flamands sous différentes formes. C'est pas un mouvement flamand comme une force politique au sens classique du terme. Ici, quand on parle de mouvement, c'est-à-dire qu'il faut se bouger. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, eh bien, en Flandre, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des mouvements qui se sont ainsi réveillés. Alors, pour bien sûr défendre et protéger l'identité, la culture, mais aussi les richesses aussi bien architecturales que paysagères. Alors, ce mouvement flamand, il est aussi constitué d'actions individuelles, d'activités d'écrivains comme Emmanuel Lauten, qui chante son berg viscéral, mais aussi des groupes qui sont réunis en association et qui chacun va mettre un thème en avant, sauver un monument, sauver des traditions, sauver aussi l'art culinaire de notre région. Alors bien sûr, ces mouvements qui ont lieu donc après 1945, ils ne sont pas nés spontanément comme ça. Il y avait déjà eu, entre les deux guerres, entre 1918 et 1939, en Flandre française, un courant régionaliste assez fort, avec en particulier, par exemple, dans le domaine architectural, la reconstruction de Bailleul en néo-régionalisme flamand est une des manifestations les plus visibles. Ce courant, malheureusement, a été stoppé net avec la Seconde Guerre mondiale. Et en effet, l'État français, à la libération, voyait d'un très mauvais œil toutes ces associations régionalistes. Ce n'était pas propre, bien sûr, à la Flandre française. C'était aussi le cas aussi bien en Alsace, en Lorraine, en Bretagne, où évidemment les autorités de l'époque, c'était toujours la philosophie un État, un seul peuple, et donc voyez dans les revendications régionales un risque de faire imploser tout simplement l'État français. Et donc évidemment, ils en ont profité avec la libération, tout simplement pour décapiter, on va dire, au sens bien sûr figuré, toutes ces mouvances régionalistes qu'ils avaient comme principe essentiellement, bien sûr, de défendre la langue. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient forcément anti-français, contrairement à ce qu'on a voulu laisser croire. Ils voulaient aussi garder leur particularisme régional, et qui fait d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr, le plaisir de bien des touristes de retrouver des particularités vraiment caractéristiques de certaines régions. Alors évidemment, la Flandre française, après la Seconde Guerre mondiale, elle a subi aussi ce contre-choc. Bon, il y avait bien sûr quelques petits mouvements assez confidentiels. Il y avait par exemple un opuscule qui s'appelait Notre Flandre, qui est édité avec comme dirigeant le docteur Claes de Saint-Omer. Mais il faut bien admettre que malheureusement, après ces 4 années d'occupation, et puis la région Nord-Pas-de-Calais, évidemment, avait subi beaucoup de dégâts au niveau de la guerre, en particulier comme Dunkerque, rasé à 90%. Eh bien, il fallait évidemment que rebâtir tout ça. Et disons que la priorité de la défense de la culture, de l'identité, est peut-être passée un peu au second plan. Il fallait retrouver un certain confort. Il fallait absolument, retrouver une maison, du boulot. Ça, il y en avait pas mal. Mais retrouver des maisons qui soient bien construites et un certain confort. Il y avait un élan comme ça depuis de 45 jusqu'à peu près les années 65, ce qu'on a appelé d'ailleurs les 30 glorieuses, hein, et bien tout simplement retrouver ce fameux confort qui a été dénoncé par le fameux chanteur, hein, Jean Ferrat en particulier, avec cette chanson « Quelle est belle ma montagne » où les gens y dénonçaient qu'ils quittaient leur vrai pays pour du formica.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.
Vous venez d'entendre une interprétation en néerlandais de la chanson de Jean Ferrat, chantée là par Wim Sonneveld, Het Dorp, mon village.
Et donc les gens, c'était la recherche bien sûr du confort absolu. Il fallait ben, reconstruire, hein, comme Dunkerque qui avait été rasé donc à 90%. D'ailleurs, le gouvernement à l'époque avait même envisagé d'abandonner toute idée de reconstruire le port industriel, tant les dégâts étaient immenses, mais c'était sans compter sur la détermination bien sûr des Dunkerquois. Et c'est ainsi que eh bien, les Dunkerquois ont tout fait pour reconstruire leur port et on connaît bien sûr la suite. Évidemment, cette recherche du confort avec des équipements ménagers venus souvent avec eh bien, l'esprit hein, américain. Donc c'était le frigidaire, la télévision, la cuisine américaine. Et puis tout d'un coup, comme un réveil, eh bien, les gens ont dit « bon, qu'est-ce qui se passe ? Certes, on vit dans un confort matériel intéressant, mais on a l'impression de perdre son âme. » Et c'est ainsi que bien il y a eu ce fameux réveil de mai 68. Alors mai 68, évidemment, aujourd'hui ça fait partie un peu des pages d'histoire, mais on a retenu surtout que c'était une grosse revendication sociale. Mais néanmoins, en Flandre, eh bien mai 68, ça a été aussi eh bien le réveil de certains. En particulier, donc, sur le campus universitaire d'ANAP, des étudiants, créer un mouvement militant pour l'autonomie régionale et le fédéralisme européen. Il s'agit du mouvement des étudiants fédéralistes lillois. Ces étudiants venaient de tous les horizons de la région. Ce n'était pas donc un mouvement dit flamand, mais plutôt un mouvement régionaliste qui comprenait aussi bien donc la Flandre, le Westhoek, que le Hainaut et l'Artois. Au cours des 5 années d'existence, eh bien, ils vont publier très régulièrement un bulletin néotypé, bien sûr, à l'époque que la photocopie n'existait pas encore, le courrier lillois. Le courrier lillois, donc, qui traitera de culture régionale, d'institutions régionales et européennes, de langue régionale, d'autonomie des universités, des rapports frontaliers, de la proximité, bien sûr, culturelle avec la Belgique et les Pays-Bas. Ils organiseront des conférences sur ces sujets qui vont attirer, d'ailleurs, un nombre de plus en plus important d'auditeurs. Ils auront des contacts avec d'autres mouvements locaux, car contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas du tout un repli sur soi, mais au contraire, disons, un principe de base de liaison entre les peuples européens. C'est donc ce mouvement européen, Maison de l'Europe de Lille, qui va en voir donc créer cette section fédéraliste des Pays-Bas français, du docteur Klaas. Et des mouvements similaires, donc on va trouver un petit peu partout dans l'Hexagone, aussi bien en Corse, en Bretagne, même aussi en Normandie, en Occitanie bien sûr, en Alsace, en Savoie, et bien d'autres encore. Quelques années plus tard, une fois installé bien sûr de la vie active, et bien malheureusement une partie des animateurs de ce mouvement étudiant, eh bien, vont peut-être un petit peu décrocher, mais néanmoins, on va voir apparaître, en particulier avec la collaboration de Gérard Landry, Alain Wallen, Georges de Verroir, pour ne citer que ces trois-là, eh bien, ils lanceront le courrier des Pays-Bas français, dans la même ligne éditoriale d'autonomie régionale, de revendication néerlandaise au sens large du terme, hein, puisque néerlandais, Pays-Bas, ça va bien sûr de l'Artois jusque là-bas, la Frise, dans le cadre d'un fédéralisme européen. Donc ce mouvement, donc issu du monde étudiantin, eh bien, va donner une impulsion pour ce réveil de la conscience flamande en particulier. Et c'est ainsi que l'on va voir naître aussi d'autres formes de défense et de promotion de cette culture flamande. À travers, bien sûr, notre région.
En als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen. Even weg van Holland, en Vlaanderen is dichtbij. En als ik vrij wil zijn, ga ik naar Vlaanderen, Ik voel me zo verlicht als ik Vlaanderen binnenrij. Even weg van alle dingen die ik thuis vaak moet verdringen. Nieuwe dagen, nieuwe nachten, open voor het onverwachte. Ik voel me in Vlaanderen zorgeloos, ik voel me in Vlaanderen vrij. En als ik lachen wil, ga ik naar Vlaanderen. Want ze lachen niet zo gauw, maar als ze lachen, is dat echt. En als ik praten wil, ga ik naar Vlaanderen, waar het laatste woord voorlopig nog door niemand is gezegd. Waar gesprekken altijd duren, tot de eerste morgenuren. Waar ze eindeloos kunnen drammen, waar de ruzie op kan vlammen. Waar de reden twist uiteindelijk bij het bier weer wordt beslecht. Wil ik naar Vlaanderen, omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt. En als ik heimwee heb, wil ik naar Vlaanderen, omdat in Vlaanderen mijn heimwee ongemerkt versnelt. Met een eeuwenoud verlangen dat in Vlaanderen is blijven hangen, in de dorpen en de steden. Met een rijk maar zwaar verleden, dat Brussel in zijn logboek niet of liever niet vermeld. Ik verlang naar jou, dus kom naar Vlaanderen. Ik kan hier nog niet weg, want ik heb hier nog te doen. Als jij naar mij verlangt, kom dan naar Vlaanderen. Dan laat ik het je zien, Vlaanderen nu en dat van toen. De mensen en de dingen, waar zijn Vlaanderen van zingen? Ik blijf hier nog wat spelen, maar wij kunnen Vlaanderen delen. Want Vlaanderen komt dichterbij, met ieder nieuw seizoen.
Paul Van Vliet, vous interprétez Vlaanderen, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
104.3. Et donc aujourd'hui nous évoquons donc les divers mouvements donc depuis la libération jusqu'à à peu près nos jours en Flandre française. Alors il y avait aussi un autre mouvement, alors en Flandre française avait la particularité bien sûr d'avoir des flamandophones et évidemment eh bien c'était surtout une langue qui était depuis quelque temps transmise uniquement par voie orale et pour bien sûr sauvegarder cette langue, il y a une association qui s'est créée en 1947, qui était présidée par un écrivain, André de Metz, soutenu par Luc Verbeek et l'abbé Cyril Mouillard, d'ailleurs, qui va fêter ses 100 ans ici ce 23 mai. Et ils vont créer le comité Frans Vlaanderen, qui donc va qui est situé donc à Waregem et qui va eh bien avoir une action importante pour promouvoir bien sûr cette langue néerlandaise tout en intégrant bien sûr le dialecte flamand qui est parlé à Bayeul, à Dunkerque, à Hasbroek, Steenvoorde. Et donc c'est ainsi que eh bien ils vont même créer donc des cours, ils vont créer des concours. À l'époque, en Flandre française, on estime qu'il y avait entre 150 et 160 locuteurs. Mais là, évidemment, la population aujourd'hui compte peut-être, dans les chiffres les plus optimistes, encore peut-être 40 000 locuteur flamand qui, malheureusement, la moyenne d'âge est quand même relativement élevée. Néanmoins, eh bien, l'avenir de notre Vlaamsche, il va passer, bien sûr, par l'enseignement du néerlandais, puisque ça fait partie, bien sûr, de la grande famille de la langue néerlandaise. Et c'est ainsi que, grâce à cette association, le KEV, nous allons avoir, bien sûr, le concours, d'ailleurs, de la ville de Bayeul, à travers son maire, en particulier, Monsieur de Lobel, malheureusement disparu depuis, qui va, lui, va tout faire pour créer cette maison du néerlandais qui existe toujours et que vous pouvez bien sûr contacter si vous êtes intéressé par l'apprentissage du néerlandais. C'est se situe à Bayeul au 37 rue d'Ypres et vous pouvez bien sûr l'appeler au 03 28 41 17 32. 03 28 41 17 32. Donc si vous êtes bien sûr intéressé par l'apprentissage du néerlandais. Alors, les Flamands de France, à l'époque, et je vous rappelle, dans les années 70-80, le monopole de l'État sur les ondes était important. Il était strictement interdit, de empiéter sur cette règle. Pour les moins jeunes parmi nous, se rappellent de ces radios pirates qui étaient situées sur des bateaux en pleine mer, Radio Caroline, par exemple. Il y avait aussi ici en Flandre française une équipe de militants animée par Pascal Van Bremersch qui va créer une radio clandestine. Et d'ailleurs, il a écrit un ouvrage et cette radio va s'appeler Radio Eulenspiegel, du nom de ce personnage facétieux qui, bien sûr, se moquait des troupes espagnoles à l'époque. Donc ici, on va vous faire écouter un extrait de cet ouvrage relatant cette aventure de la première radio libre de Flandre.
Des tiges métalliques, deux accumulateurs, une drôle de petite boîte, des câbles, un magnétophone portatif. Chargés de ce matériel, ils sont quelques-uns à pénétrer dans l'église de Cassel en ce dimanche après-midi 1er janvier. À quoi servent ces ustensiles insolites ? À la première émission d'une station pirate flamande qui se fait connaître sous le nom de Radio Eulenspiegel. La presse régionale et locale a largement annoncé l'émission. Nous tenons à réussir l'opération. Ce n'est pas sans une certaine nervosité que nous montons l'antenne et raccordons les divers appareils devant la statue de Notre-Dame de la Crypte, dans une partie de l'église, isolée par des tentures. Le programme, préenregistré sur une bande magnétique, est prêt à démarrer. L'émetteur est branché. Quelques minutes pour que la fréquence se stabilise. Il est 15h. Nous appuyons sur une touche du magnétophone. L'émission commence. Indicatif, Jan Meinemann, interprété par Marie Kunbart, dans un silence parfait sur place, car le haut-parleur du magnétophone est déconnecté. Nous sortons de l'église et partons en voiture tester la réception aux alentours. Dans les pentes de Cassel, en direction d'Arnec, elle s'évanouit malheureusement rapidement. Ceci est dû au relief du mont qui s'interpose entre l'église et nous. Nous nous apercevons aussi que nous ne sommes pas les seuls auditeurs. Hérissée d'antennes, une voiture stationne sur un chemin de terre, à l'ombre d'une haie. À l'intérieur, une seule personne, dont il n'est pas difficile de deviner le genre d'activité à cette heure et à cet endroit. Nous reconnaissons ce même véhicule, traversant la grande place de Cassel quelques minutes plus tard, le conducteur jetant de rapides coups d'œil à droite et à gauche, certainement intrigué par l'amélioration subite de la réception. Soudain, vers 15h30, le son ralentit, s'arrête, reprend péniblement, comme si quelqu'un essayait de retenir la bande magnétique. Aïe, 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 notre radio n'aura pas duré longtemps. Nous sommes pris dès la première émission. Mais non, le programme continue comme auparavant, du moins en apparence. Que faire ? Retourner à l'église, voir ce qui se passe, au risque de se retrouver nez à nez avec un comité d'accueil ? Finalement, nous décidons d'aller voir notre ami Baudouin, qui est resté en faction non loin de l'église. Alors, juste après l'accident, il a vu une femme âgée sortir de l'église en courant, affolée. Mais il y a déjà 20 minutes de cela. Quelques personnes visitent l'édifice sans se douter de rien. Anxieux, nous attendons tout de même que l'heure d'émission se termine. Enfin, l'indicatif de fin, Roselyde, est baissé rapidement au potentiomètre du magnétophone. Tout est débranché et emporté le plus vite possible dans la voiture de Baudouin qui démarre. Personne ne nous suit. Dès ce moment, je pense avec soulagement, partagé par mes acolytes, que la première émission a bien eu lieu. Ce n'est plus du rêve, c'est acquis. Quelques jours plus tard, nous recevons à la Maison pour tous de Saint-Omer, donnée comme boîte postale à l'antenne, des lettres d'auditeurs, nous ayant captés à Stenvoort, Hasbrook, mais avec un matériel spécial. Sainte-Marie-Capelle, Saint-Sylvestre-Capelle, Sercus, Bochrep. Par la suite, d'autres nous rapporteront avoir écouté l'émission à Wormwood, Stenvoort. En gros, on peut estimer qu'elle porta une dizaine de kilomètres autour de Cassel. Impact très faible, direz-vous ? Sans doute, mais avec un tout petit émetteur à peine gros comme une boîte à chaussures, selon l'expression consacrée. Et puis, d'autres émissions sont prévues pour les dimanches suivants. Un public ne peut se créer qu'au fil du temps, pas d'un seul coup. Au fait, j'oublie l'essentiel, le contenu de cette émission. Musique traditionnelle flamande, défense et promotion de la culture flamande, de ce qui constitue le cœur, l'aspect le plus évident, la langue flamande. Nus aut Vlaams, notre vieux flamand. C'est un extrait d'un ouvrage écrit par Pascal Van Bromersch, une radio libre en Flandre, Radio Hélène Spirol.
Voilà, qui était une des premières radios libres, donc bien sûr clandestine à l'époque. Une autre radio d'ailleurs que les gens du Doésie doivent se rappeler, c'était Radio Quinquin, qui d'ailleurs subissait le même sort que Radio Nespirel, puisque régulièrement le matériel était saisi par la gendarmerie. Et il a fallu attendre 1981 avec l'élection de François Mitterrand qui va accorder enfin la liberté d'émettre pour les radios donc libres, ces radios pionnières et puis bien d'autres après vont suivre bien sûr. En 81, d'ailleurs, ce même François Mitterrand avait dans un grand discours à Rennes promis de reconnaître les langues régionales. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, on attend toujours, bien sûr, cette autorisation de pouvoir enseigner et transmettre la langue, les langues régionales. À travers, bien sûr, ces mouvements, il y a naturellement, il y a eu beaucoup de groupes musicaux qui se sont créés, à l'instar de Marie Kenbart, hein, dont on a parlé au début de l'émission, et qui sont tous inspirés, pour la plupart, bien sûr, des chants traditionnels recueillis par Edmond de Kussmaker, qui y fait découvrir, bien sûr, la richesse des chants et de la musique en Flandre française. Alors bien sûr, on ne peut pas citer tous ces groupes naturellement. Ils étaient très nombreux. Il y a des groupes qui existent encore aujourd'hui, comme Utrecht. Il y avait des groupes qui ont eu vraiment un grand succès, comme le groupe Arredorn. Et puis il y a bien d'autres. Il y a des groupes comme Etwin aujourd'hui. Et puis ben, on peut vous faire encore écouter bien sûr quelques morceaux au cours de cette émission pour... bien sûr, vous faire partager donc cette culture musicale de Flandre française. Il y avait aussi d'autres mouvements, donc des associations, alors un peu plus structurées, qui se sont créées, comme le Cercle Michel de Zouane en 1971, puisque suivi par d'autres associations comme Tenra Antunran et aussi Marshall Lake Raider. Il y avait déjà le Comité flamand de France. Et ce groupe d'associations, Treusekort aussi, eh bien, vont se réunir en université et créer une sorte de un manifeste de revendication, dont on va vous faire la lecture ici de l'introduction de ce manifeste qui a été édité en 1981, si je ne me souviens bien.
un manifeste. Pourquoi ? Par qui ? Pour qui ? Pourquoi lancer un manifeste ? D'abord et avant tout, parce qu'il était opportun de préciser, avec force et clarté, ce que veulent et ce que ne veulent pas les associations régionalistes de Flandre française. À l'intention des détenteurs de l'autorité, élus et fonctionnaires, au moment où l'on parle de leur régionalisation, de respect des différences, de l'attention apportée aux langues et cultures régionales, mais aussi à l'intention de l'ensemble des Flamands de France, parfois trop tentés, sous la pression des facteurs d'uniformisation et de banalisation, de méconnaître leur héritage et de laisser défigurer leur visage. Cela, il fallait l'exprimer en peu de mots, un peu rainement peut-être, mais sans ambiguïté.
Voilà, donc les associations qui se réunissent pour, eh bien, naturellement, auprès des autorités, eh bien revendiquer, bien sûr, la défense, la promotion de l'identité régionale. C'est un mouvement général, hein, qui n'est pas l'exclusivité, bien sûr, de la Flandre française. On le retrouve aussi bien en Bretagne, en Alsace, en Occitanie, même dans d'autres pays d'Europe, hein, par exemple, je pense au sud Tyrol, par exemple. Eh bien, tout ce mouvement qu'on peut qualifier de régionaliste, eh bien, naturellement, veulent défendre leurs particularités. Et donc, à travers aussi donc, ces groupes musicaux, c'est des groupes aussi folkloriques, comme à Luin, ce groupe qui s'appelle The Clappen Cloth, qui a été créé en 1980, qui fait des animations genre bal folk, et qui permet aux gens, bien sûr, de découvrir ou redécouvrir leur culture flamande. Et encore aujourd'hui, il y a des associations comme l'association Zanekin, qui organise chaque année, depuis maintenant plusieurs, de la 6e ou 7e édition, à Rexpoud, une belle fête de famille qui s'appelle la Zanekin Fest, qui a toujours lieu donc le dernier dimanche, le dernier week-end du mois d'août. C'est une belle fête traditionnelle, familiale, où les enfants et les familles peuvent trouver leur bonheur et aussi permettre de retrouver leur culture. Mais la défense de cette culture, bien sûr, passée par des associations, mais il faut bien le reconnaître, les autorités étaient un peu sourdes, si bien que plusieurs associations se sont réunies pour créer un mouvement politique, en disant, eh bien, puisqu'on ne veut pas nous entendre, eh bien, on va chercher à prendre des places, à élire des conseillers, élire des maires. Et c'est ainsi qu'un mouvement politique est né dans les années 1984, qui s'appelait le Parti fédéraliste flamand, qui a présenté quelques candidats aux élections. Malheureusement, il n'y a pas eu d'élus. Et ce mouvement n'a duré malheureusement qu'une bonne quinzaine d'années. Néanmoins, il y avait une volonté, bien sûr, plus forte de revendiquer, bien sûr, leur défense d'identité. Et puis, il y avait après tout un réseau d'estaminets, dont un des plus anciens, c'est le Blobbershof à Godwarsveld. C'est un des qui a été créé par son fondateur Chris Mercier. C'était une ancienne forge et puis qu'il a voulu bien sûr recréer ces estaminets qui connaissent eh bien toute cette convivialité, cette chaleur typiquement flamande.
meisje kwam van 10 worden. Ik wist er op de muren wat nog.
Maar dit je met een ballonnetje en ze kon ze dan gezetje. Ding, 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 maar dit je.
Maar dit je kwam van wat toe en een wilde de meisjes kwam doen.
Maar dit je met een ballonnetje en ze kon ze dan gezetje. Ding, 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 maar dit je.
Chanson traditionnelle de Flandre, une chanson particulièrement populaire à Steenwand, Cassel et Bayeul, interprétée par le groupe Hagedorn. Hagedorn, dont Michel vous a parlé tout à l'heure, le nom en flamand, en fait, de l'aubépine, et en empruntant le nom de cet arbuste fleurissant au printemps, le groupe a voulu voir l'image de la renaissance de la musique traditionnelle et que de la culture flamande en Flandre française. Comme il vous l'a dit, beaucoup de chansons ont été sauvegardées dans l'ouvrage d'Edmond de Cousmater du Comité flamand de France. Et tous ces chants ont été notés en flamand, la langue maternelle des habitants du Westhoek français. Hagedorn fut créé en 1975 par 4 jeunes de Flandre française, Claude Abou, Laurent Claes, Irène De Wulf et Martial Wagemaker. Quelques années plus tard, Michel Gaugard, Patrice Eugbar, puis François Balladur rejoignirent ce groupe. Et c'est dans les années 70 que le grand public a redécouvert les musiques traditionnelles, avec Alan Stivell en Bretagne, Roger Siffer en Alsace, Johan Pauverdier en Occitanie. La musique flamande, de son côté, connaissait un renouveau remarquable, avec notamment Alfred Den Hoeden, les groupes de Snar et Rhum en Flandre belge, Marie Kemlart et Hagedorn en Flandre française.
Voilà, donc c'était vraiment une promotion, un réveil de l'âme flamande à travers ses chants et ses danses. Et donc tous ces groupes, bien sûr, ont permis de réveiller cette culture, de même ce réseau de estaminets dont le premier, comme je disais tout à l'heure, le Blowers Off, eh bien, a permis de retrouver la richesse des cuisines flamandes. Bien sûr, le fameux potjevlege, incontournable, le Wetterzooi, la carbonade, mais bien d'autres plats que nous avons pu découvrir à travers, bien sûr, nos voyages parmi tous ces estaminets de Flandre, et aussi redécouvrir tout simplement ces jeux traditionnels comme le jeu de la grenouille, le billard Nicolas. Évidemment, ce réseau d'estaminets, il y avait aussi, qui est important pour la culture flamande, mais il y avait aussi d'autres choses très importantes, et ce sont bien sûr les paysages. Et une association animée par Monique Tenner a réussi à sauvegarder bien des granges en créant ce musée du plein air à Villeneuve-d'Ascq. En effet, ces granges, bien évidemment, étaient devenues beaucoup trop petites face à l'arrivée de ces engins agricoles des vrais mastodontes qui pouvaient plus être bien sûr mis à l'abri dans ces petites granges faites de bois et de paille. Et si bien que les fermiers, la plupart, décidèrent tout simplement de les abattre. Ce qui était un véritable crime, sachant que certaines granges dataient du XVIe voire du XVIIe siècle. Et donc, grâce à la persévérance de Monique Teneur et de tout un groupe d'animateurs, eh bien, ils ont réussi à sauvegarder une grande partie, enfin, disons de nombreux bâtiments qui vont servir aujourd'hui de témoins de cet habitat passé de Flandre, en particulier de Flandre du Westhoek. Une autre association qu'il faut ici saluer, qui travaille depuis de nombreuses années, c'est une association animée par Félix Boutu, Isorouk, de Folkerinkov, qui lui eh bien, est attaché à la sauvegarde de ce qu'on appelle le petit patrimoine. Alors ce petit patrimoine, ce n'est pas du tout par mépris qu'on parle de petit patrimoine, mais c'est ce petit patrimoine qui donne eh bien, la personnalité d'un village, de ses routes jalonnées, de petites chapelles, de ses... petit bâtiment qui vous disent ben voilà je suis en Flandre tout simplement. Une autre association dont il faut saluer bien sûr un immense travail de sauvegarde du patrimoine flamand, c'est l'association régionale des Amis des Moulins, qui va sauver là aussi de nombreux moulins qui étaient bien forcément avec le progrès technique mis à l'abandon, mis à la réforme. Et c'est ainsi qu'il a créé un site à Villeneuve-d'Ascq où on peut admirer plusieurs de ces moulins qui sont autant de témoins de la richesse de notre Flandre passée.
Interprété Yann Meineman, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et l'émission déjà approche de la fin. Et il y a encore tant de choses à dire. La culture flamande, bien sûr, mérite largement son détour. Et nombreux sont ceux qui œuvrent pour promouvoir, pour défendre le patrimoine aussi bien architectural, paysager, mais aussi l'art culinaire, tout simplement, le savoir bien vivre. Et aussi sa culture, sa langue. Nous avons cité la maison du néerlandais à Bayeul, mais il y a aussi... pour apprendre un petit peu votre histoire de Flandre, eh bien, je vous invite à aller visiter la maison de la bataille à Norpen. Et chaque année, il faut savoir que, eh bien, non pas par nostalgie, mais des centaines de Flamands, eh bien, marchent le quatrième samedi du mois d'avril chaque année depuis plus de 40 ans pour se souvenir tout simplement que la Flandre par le passé était une et que aujourd'hui, eh bien, elle a été bien sûr par les faits d'histoire séparés de la Flandre belge, mais néanmoins il est certain que la frontière, c'est une frontière un petit peu artificielle et il suffit de se balader à vélo par exemple entre Onscott, Furne, que vous allez bien voir que c'est toujours les mêmes paysages, ces beaux paysages de Flandre que nous aimons beaucoup, que nous essayons bien sûr de vous faire partager à travers cette émission L'Heure Flamande sur votre radio préférée, Radio Plus. Eh bien, nous allons vous souhaiter une excellente semaine et puis, bien sûr, gardez vos distances par précaution pour vous et pour ceux que vous aimez. À la semaine prochaine.